Non, mais c'est vrai que les trois mousquetaires, c'était pas assez. Fallait envoyer toute la sauce d'Alexandre Dumas d'un coup. Du coup, c'est reparti pour un tour.
Allez, du cinéma ! Allez, du cinéma,
bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Les premières images du Comte de Monte Cristo sont là, le blockbuster français de la moitié d'année que beaucoup attendent, et moi, qu'est-ce que j'ai à dire dessus ? À côté de ça, Mathieu Kassovitz veut péter la gueule à Saïd Tagmaoui. Ouais, voilà, c'est la news, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça ? Dans la version audio, un bilan des entrées ciné de cette semaine, et dans la version vidéo, les sorties en salle française à ne pas rater ce mercredi. Il y aura aussi la question du public et Spaceman qui envoie Adam Sandler dans l'espace sur Netflix. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous.
Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif à chaque plateforme. Du coup, bah, n'hésitez pas à vous abonner aux deux. Abonnez-vous sur YouTube avec la cloche, avec son bouton s'abonner, et même en podcast sur Spotify, sur iTunes, vous connaissez la musique. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
Moi, je veux du féroce actualité.
On attendait ces premières images. Depuis le temps qu'on nous tease ce projet comme un des plus importants dans le cinéma français en 2024, on attendait, et le voilà qui est arrivé, le premier teaser du Comte de Monte Cristo. Et avant même de parler des images qu'on a pu apercevoir, on va revenir sur ce qu'est ce projet, parce que c'est déjà assez coriace. C'est un projet qui est initié par Pathé avec le producteur Dimitri Rassam. Dimitri Rassam, donc, qui a produit pas mal de comédies à l'origine, mais qui a su se diversifier avec le temps. C'est notamment à lui qu'on doit toute la production du Petit Prince, le film d'animation qui était sorti en 2016 et qui avait récupéré pas mal de prix. Il avait gagné un César notamment, je crois. C'est notamment Dimitri Rassam qui produit aussi le prochain film de Kirill Serebrennikov qui s'appelle Limonov, dont j'avais parlé dans une émission précédente. Bref, il a un spectre très très large. Mais comme je vous disais, à la base, Dimitri Rassam, il vient de la comédie et il avait notamment produit le premier long métrage de deux personnes qui s'appellent Alexandre Delaporte et Mathieu Delapatelière, et ce film, ça s'appelait Le Prénom. C'est sorti en 2009. Dans mon souvenir, Le Prénom, c'était pas mal. C'est vraiment un film avec lequel j'ai de bons souvenirs, avec la regrettée Valérie Benguigui, qui nous manque très très fort. Dimitri Rassam va suivre donc ces deux réalisateurs sur différents projets, sur Un illustre inconnu, sur Le meilleur reste à venir avec Patrick Bruel et Fabrice Luchini en 2019. Sauf qu'à l'orée des années 2020, Dimitri Rassam, il a un projet fou, à savoir faire des gros blockbusters français à partir d'œuvres d'Alexandre Dumas. Et du coup, bah, il va appeler ces deux poulains dont je vous parlais, qui viennent en plus de l'écriture théâtrale à la base, et il va leur dire « Hey, est-ce que vous m'écririez pas, je sais pas, un diptyque sur les Trois Mousquetaires ?» Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont écrit les deux films des Trois Mousquetaires. Mais ils les ont pas réalisés. Non, parce que eux, à l'époque, ils ont pas prouvé encore qu'ils étaient capables de tenir la barre d'un aussi gros projet. Et du coup, les Trois Mousquetaires va être filé à un autre réalisateur qui s'appelle Martin Bourboulon, et qui lui, bah, avait déjà réalisé Eiffel, avec Romain Duris. Martin Bourboulon, que Dimitri Rassam connaît bien aussi, parce que quand il produisait de la comédie, bah, globalement, il a produit toutes les comédies de Martin Bourboulon. Papa ou Maman, c'était aussi Dimitri Rassam à la production. Et à la fin de cette écriture-là, bah, de la Porte et de la Patelière, ils ont un petit peu un truc de « bah c'est super, on a écrit notre gros projet, c'est pas nous qui le faisons, on en a encore un peu sous le coude, viens, on s'écrit une adaptation du Comte de Monte Cristo ». Et cette fois-ci, pour eux, la situation est différente, ne serait-ce qu'auprès de Pathé, ils ont prouvé qu'ils étaient capables d'écrire deux énormes films comme ça, et on leur dit « ok, allez-y ». Réaliser le Comte de Monte Cristo. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est que ces films-là, ces films à gros budget français de KPDP dont on parle depuis plusieurs années, ils viennent d'un tout petit milieu de gens qui à la base sont issus de la comédie, ils se connaissent depuis 20 ans à l'intérieur, et ils essayent aujourd'hui de pousser un peu les limites du cinéma français pour proposer autre chose, avec d'autres budgets et d'autres ambitions. Ils ont envie de montrer qu'on peut faire plus gros, qu'on peut faire plus fort, qu'on peut faire différent en fait. Et ça, Dimitri Rassam, il l'avait compris dès le début de sa carrière, le premier film que Dimitri Rassam a produit, c'était Les Enfants de Timpleback en 2008. Sauf que le Comte de Monte Cristo, il a une petite pression sur les épaules. Parce que oui, quand c'était à l'étape de l'écriture, on pouvait rigoler, mais aujourd'hui, les deux films des Trois Mousquetaires sont sortis, et ils ont marché sans tout exploser non plus. Ils ont quand même réuni à eux deux plus de 6 millions de spectateurs en salle, avec des ventes à l'inter complètement dingues, mais il est probable que Pathé espérait faire un beaucoup plus gros coup que celui qu'il a fait. Beaucoup plus gros coup. Pas certain de l'ordre des mots, là. Et donc, ils sont attendus au tournant, que ce soit en termes de qualité vis-à-vis des choses sur lesquelles les deux premiers films avaient pu être critiqués, mais aussi en termes de résultats derrière. Est-ce que ce Comte de Monte Cristo va tenir la barre ? C'est compliqué pour eux, la situation, elle est chaude. Et du coup, sont arrivées les premières images.
À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Mais c'est moi qui punis.
ça a l'air vachement mieux que les Trois Mousquetaires. Non, sans déconner, j'ai de la sympathie pour notamment le premier film des Trois Mousquetaires et certains trucs du 2, mais ça a l'air vachement mieux. Après, je pense que ce qui me séduit aussi, c'est l'idée de thriller dans le 19e siècle. Ça, oui, bon, ça m'intéresse. Parce que oui, si vous le saviez pas, le Comte de Monte Cristo, c'est un récit de vengeance où un homme va être enfermé à cause de fausses accusations de conspirateur bonapartiste et au bout de 14 ans, il va réussir à s'échapper, va devenir le Comte de Monte Cristo et va aller se venger des gens qui l'ont trahi. Et il y a un casting gigantesque encore, Pierre Niney en tête, parce que c'est évident, tu montes pas un projet aussi fou que celui-là sans avoir une grosse star bankable au milieu pour le tenir, et je suis plutôt content de voir Pierre Niney être cette grosse star. Mais autour de lui, on va retrouver Bastien Bouillon, que vous avez sûrement vu dans La Nuit du 12, Anaïs de Moustier, Anna-Maria Bartolomei, que vous connaissez probablement pour L'Événement, Laurent Lafitte, ou encore Pierre-Francesco Favino, qu'on aime voir partout, Pierre-Francesco. Et alors, je vais pas commenter la qualité d'une bande-annonce d'une minute, parce que ce serait complètement absurde, on va pas juger la qualité d'un film à littéralement 1 minute 15 surcutée. Par contre, j'ai pu noter quand même une grosse différence qui part pourtant d'un point commun entre Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo. Parce que quitte à faire un gros Alexandre Dumas Cinematic Universe, ils ont décidé de conserver une partie de l'équipe artistique commune entre les trois films. Sur Les Trois Mousquetaires comme sur Le Comte de Monte Cristo, c'est le même chef costume, c'est le même chef décor, c'est la même monteuse, mais surtout, c'est le même chef opérateur. C'est Nicolas Bolduc qui s'occupe de l'image de toutes ces adaptations de Dumas. Nicolas Bolduc qui a déjà une grande carrière, c'est lui qui faisait l'image notamment sur Ennemi de Denis Villeneuve, sur les deux premiers films de Nicolas Bedos, sur Fatal de Michael Youn. La photo est super, je vois pas pourquoi on débat. J'adore Fatal, je connais le battle de rap à la fin par cœur. Et même si c'est 1 minute 30 de bande-annonce là, tu sens clairement qu'on lui a pas demandé de produire les mêmes images entre Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo. Je trouve qu'on est sur deux styles radicalement différents, bien qu'il y ait une base commune. Les Trois Mousquetaires, c'est quand même marqué par, notamment sur le premier, une photographie jaune pisse absolument dégueulasse et un shaky cam constant qui fait que tu comprends pas la moitié de l'action. Là, tu regardes le teaser, c'est quasi que des plans au ralenti, avec du grand angle qui permet de faire des gros plans sur les visages, une lumière très stylisée, très tranchée. Il y a l'air d'avoir une recherche visuelle sur Le Comte de Monte Cristo qui le différencie pas mal de ce qu'était la bouillie numérique du film des Trois Mousquetaires. Comme si de film en film, on avait entendu les critiques qui avaient été faites et on essayait justement d'améliorer le tir. On essayait de prendre notre univers cinématographique et de le pousser toujours plus loin vers la qualité, d'améliorer cet univers cinématographique sur les bases des erreurs du précédent. Hein, Marvel ? T'ajoutes à ça les images qu'on a pu voir de Pierre Niney qui tourne la scène d'évasion dans une grande cuve immense avec des reproductions de vagues et tout. Ouais, la scène a l'air impressionnante, ça m'intéresse beaucoup. Ça a l'air de mettre le paquet, mais est-ce que ce sera bien, est-ce que ce sera pas bien? Je sais pas, j'ai pas vu le film, encore une fois, on a vu 1 minute 30 d'images, c'est trop compliqué pour juger en l'état. Mais j'aime l'idée de voir des gens se battre pour essayer de proposer un cinéma français plus grand, en dehors de certains clichés, avec des gros budgets, ne serait-ce que là, sur Le Comte de Monte Cristo, le film en lui-même, c'est 35 millions d'euros de budget. Ça va pas concurrencer les Américains, mais dans le cinéma français, c'est colossal. C'est quand même à mettre à leur crédit de voir que, bah oui, ils essaient de faire un certain cinéma épique impressionnant. Maintenant, par contre, je vais redire ce que je dis à chaque fois, en fait. C'est-à-dire, ok, les KPDP, c'est super, à quand Jules Verne? C'est-à-dire qu'on a quand même en France un terreau propice à faire des adaptations de science-fiction. Méliès était français. Quand est-ce qu'on retourne là-dedans? Quand est-ce qu'on tente ça, justement, avec des gros budgets en France? Avec Jean-Pierre Darroussin dans le rôle du Capitaine Nemo. Ouais, alors, me demandez pas des idées, hein, j'en ai plein. De toute manière, faudra bien un moment sortir des KPDP parce que vous aurez fait le tour. Alors, vous pourrez pas adapter tous les bouquins au bout d'un moment. Le Comte de Monte Cristo, ça devait sortir à la base en novembre, ça avait été décalé à décembre et ça vient d'être ramené au 28 juin. Oui, ce sera le film de la moitié de l'année. Fin juin comme ça, ça ferait pas un joli tapis rouge à Cannes ? Je dis ça, je dis rien. Quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'on voit le film dans 3 mois. Ça va arriver extrêmement vite et j'ai extrêmement hâte de pouvoir vous en parler. Bon, il y a Mathieu Kassovitz qui veut péter la gueule à Saïd Tagmaoui. Voilà, non mais je sais, même dit la deuxième fois, ça paraît toujours aussi con, parce que ça l'est. Je vais essayer de rester un maximum sur les faits, parce que bon, sinon je vais m'énerver, mais en gros, j'ai reçu énormément de questions du public qui m'en parlaient, puis tous les sites de cinéma en parlent, allez, on va en toucher un mot. Résumé des faits, en 1995 est sorti le film La Haine, écrit et réalisé par Mathieu Kassovitz, qui a aujourd'hui un statut de film culte, qui avait gagné le prix de la mise en scène à Cannes à l'époque, et qui a lancé la carrière de Vincent Cassel, mais aussi en partie de Saïd Tagmaoui. Et le pauvre Hubert, voilà, le pauvre Hubert, c'est compliqué. Saïd va rapidement apprendre l'anglais parce qu'il veut tenter une carrière à l'international. L'Amérique, ça l'intéresse. Il a d'ailleurs aujourd'hui la nationalité américaine. Et il va s'en sortir quand même pas mal parce qu'il va jouer dans un paquet de films. Il a joué dans Les Rois du désert de David Russell. Il a joué aux côtés d'Harvey Keitel, mais aussi de Renault et de Johnny et de Depardieu dans le film Wanted. Il est dans Angle d'attaque. Il est dans G.I. Joe. Il est dans Wonder Woman. Il a plutôt bourlingué quand même. Faut dire que c'est quand même plus prestige d'aller jouer dans les clips de A$AP Rocky ou U2 plutôt que dans le long métrage d'Alain Soral. Ouais, ce truc a existé. Je dirais rien de plus à ce sujet. Mais au milieu de toute cette carrière internationale, Saïd Tagmaoui en a toujours profité pour mettre des taquets à Mathieu Kassovitz. Notamment par rapport à La Haine, en disant que ben Kassovitz continuait de se faire un maximum de pognon sur le film, et que Saïd, pas du tout. D'après ce qu'il se raconte, il se serait pas revu depuis le tournage de La Haine, mais là, entre la ressortie du film et la future comédie musicale La Haine... Putain, il y a une comédie musicale, La Haine, putain. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Bref, entre tous ces projets, Saïd y passe son temps à dire que lui, il touche rien, mais que Kassovitz touche un maximum de pognon. Et ça fait quelques années que Saïd Tagmaoui, oui, si tu regardes ses interviews, dès qu'il est en interview, on lui parle de La Haine et il a l'air d'avoir développé une certaine rancœur. Il peut pas s'empêcher à chaque interview d'en mettre plein la gueule à Kassovitz.
Ils viennent de faire les 25 ans de La Haine, frère. C'était l'année dernière au Palais de Tokyo. Ils ont ni invité Hubert, ni moi. Je sais pas, pour Vincent, on n'a pas de contact avec lui. T'as un film culte, français. Tu fêtes les 25 ans. Ça serait honteux de te dire combien j'ai gagné sur ce film.
Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai là-dedans? J'en sais rien, je suis pas dans leur tête. Tout ce que je sais, c'est que Kassovitz a décidé de répondre. Et la réponse est sûrement un des trucs les plus bizarres que j'ai vu depuis très longtemps. Parce que le bonhomme a fait une trilogie. Kassovitz, il a pas réalisé de film depuis 13 piges. Le moment où il se décide à réaliser un truc, c'est une trilogie de clash concernant Saïd Tagmaoui. Non mais le monde va très très mal. Entre ça et la comédie musicale La Haine, le monde va très très mal. Alors d'abord, il a fait une vidéo dans sa cuisine, avec un pot de Nutella vide, et ça a donné ça.
Mon petit Saïd, je te vois sur Internet et sur tes réseaux sociaux, là. Là, tu viens de sortir de ton placard un vieux paquet de t-shirts collector. Qui sont aussi collecteurs que ceux qui sont vendus à la porte de Saint-Ouen, et que cet argent, grâce à ta magnifique générosité, va à un orphelinat dont tu t'occupes. J'ai fait un petit calcul, je pense qu'avec tes quelques t-shirts dans le truc, tu vas réussir à récolter 500€ pour ton orphelinat. Mais moi, je te propose de reprendre tes t-shirts à 5000€, donne l'argent, et après on fait un combat, toi et moi, et tout cet argent ira aussi à ton orphelinat. Alors pour te faire fermer ta gueule définitivement sur le film et sur le fait que t'aies écrit les scénarios, que c'est toi, que moi je suis un raciste, je veux qu'on règle nos problèmes. Et je veux qu'on les règle en public. T'es devenu la caricature de toi-même. Voilà. Même ta gomina, elle va retourner dans sa boîte, je vais pouvoir montrer enfin à tout le monde à quel point t'es bidon et à quel point t'es vide. Et il y a tellement de gens qui ont envie de te taper aujourd'hui parce que tu les as insultés, tu leur as manqué de respect. Je t'aime, ça y est, je sais que t'as besoin d'amour, mais avant, je vais te péter la gueule. Parce que j'en ai ras le cul que tu parles mal de nous, j'en ai ras le cul que tu racontes que de la merde, et que tu aies réussi à diviser un truc qui était à la base quelque chose de fort. Voilà.
Voilà, ça c'était la partie 1, il a défié Saïd Tagmaoui en combat de boxe, sauf que Saïd a pas répondu. Du coup, deuxième vidéo, cette fois-ci Kassovitz est torse nu en train de se laver les dents dans sa salle de bain, et il balance tout ça.
Saïd, ça fait 24 heures, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est au courant et tu vas vraiment avoir l'air d'un con quoi. Saïd! Réponds, parce que sinon je continue tous les matins, ça va être comme ça tous les jours. Mais putain, Saïd, viens, on va se battre sur un ring, viens, toute la France est au courant!
Voilà, deuxième vidéo, toujours pas de réponse, et du coup, dernière partie de la trilogie, où cette fois-ci Kassovitz se filme sur ses toilettes en train de faire caca. Malgré toute l'ambiance assez bizarre de cette vidéo, bah c'est celle qui donne quand même le plus de contexte sur l'affaire.
Je suis désolé pour ceux qui voulaient un vrai combat, je pense que ça va pas arriver. Saïd, ça fait des années qu'il m'insulte. Ça fait des années qu'il me menace, qu'il me défie à faire un combat de boxe. J'ai des dizaines de messages, de photos, de vidéos de lui qui me menace. Il continue de m'insulter, j'ai jamais répondu ça. Et j'ai découvert qu'il fait pas ça qu'avec moi, il fait ça avec plein de gens. Saïd est un bully, voilà. C'est la situation. Il a pété un câble, il pense que il a le droit de dire ce qu'il veut avec ses fausses déclarations. Non, t'as pas écrit La Haine. Non, t'as rien à voir, mec. T'es juste un acteur. Je t'ai mis la main dans ton cul et je t'ai fait faire tes phrases et je t'ai renvoyé dans ta loge. Saïd, tu mens comme un arracheur de dents. Je sais pas pourquoi t'es devenu un connard et j'espère que les gens qui t'entourent vont te ramener un petit peu sur terre. Donc, bonne vie. Continue à bien te faire plaisir, à te regarder dans le miroir et à... Voilà, donc merci d'avoir suivi. Merci à mes nombreux followers là, que j'ai en plus. J'en ai pas assez. Je pense que si j'en veux plus, il faudra que j'en achète comme Saïd l'a fait. Merci à tous. On a bien rigolé. C'était fait pour. Je vais quand même donner les 5000 euros à ton orphelinat parce qu'apparemment t'as pas de réponse, donc je vais quand même leur donner qu'ils soient pas les seules victimes de cette histoire de merde. Bon caca, bonne journée, à bientôt.
Voilà. Et maintenant vous attendez au moment où je dis moi qu'est-ce que j'en pense de tout ça. Bah j'en pense que c'est de la merde. On est en 2024, t'as un comédien qui peut pas s'empêcher de puter dès qu'il fait une interview et t'as un réal qui fait des clashs sur ses toilettes en faisant caca. Non mais sans déconner. Comme je disais, Kassovitz il a pas réalisé de film depuis 13 piges, Saïd il passe son temps à faire des seconds rôles à moitié cachés. Faites des trucs de votre vie, je vous en supplie. Ça tente d'avoir la street cred d'un rappeur et ça fait des clashs comme des comédiens de télé-réalité. Non mais pitié. Si j'en parle aujourd'hui, c'est seulement parce que la partie question du public a été truffée de trucs à ce sujet et qu'il fallait que je développe un peu plus longuement. Mais c'est vraiment du drama de merde. Qui a raison, qui a tort, j'en sais rien. Parce que en plus, vouloir prendre le public à témoin de ce genre d'embrouille qui remonte quand même à il y a quasi 30 ans... Je trouve ça un peu abject dans la manière de le faire. Parce que personne n'aura la vérité, ça va juste alimenter un petit clash de merde suprastérile. Si vous voulez vraiment mon avis dans l'histoire, je trouve que Saïd, il est ridicule à faire ce petit clash depuis des années alors qu'il vit sa meilleure vie aux US. Il aurait quand même d'autres choses à foutre. Et je trouve Kassovitz ridicule de répondre à ce genre de conneries-là. Après, Kassovitz a toujours été une grande gueule, mais pff, quand même. J'en viens à commenter dans cette émission le caca de Kassovitz. Le cacassovitz. Voilà. Oh, ça va être le titre de l'émission, ça dit donc. Compliqué ce début de semaine. Non, on a vraiment envie de repartir dans le passé pour reparler de Dune. Oh, je pourrais faire une semaine dédiée à ça, je pense. Allez, on avance. Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des films qu'il ne faut pas rater en salle cette semaine. Mais nous, de notre côté, on va parler de qui marche au cinéma en France. Et forcément, il y a une évidence. L'évidence, bien entendu, c'est Dune partie 2 qui réalise un score absolument hallucinant, déjà le plus gros score de 2024, puisque sur 994 copies, ce qui est absolument gigantesque, hein, c'est rare qu'on ait une telle diffusion pour des films, et ben sur 994 copies, le film atteint à la fin de son premier week-end le score d'1 100 000 entrées. C'est, alors déjà, on peut le dire, c'est plus que le premier Dune. Le premier Dune, à la fin de son premier week-end, faisait 900 000, c'est 200 000 entrées de plus. La dernière fois qu'on a eu un score au cinéma aussi fou en démarrage premier week-end, c'était pour Barbie qui avait terminé son premier week-end avec 1 200 000. De ces 1 200 000 en total d'entrées pendant l'été, elle avait réussi à atteindre 5 800 000. Là donc, avec Dune 2, on est à 1 100 000. On peut s'attendre à ce que le film aille toucher les 5 millions. Surtout qu'en plus, le retour public et le retour critique est gigantesque le concernant. C'est pas comme Barbie qui a commencé à faire vraiment débat et où les gens étaient en mode « non, c'est vachement de la merde, blablabla ». Peut-être que ça a alimenté ses entrées aussi, j'en sais rien. En tout cas, Dune 2, ça a l'air d'être que du positif et les gens ont envie de découvrir ça sur le plus grand écran possible. Donc bravo Dune 2, personne n'est étonné que tu casses tout, mais tu casses tout quand même. Et forcément, ben les autres nouveautés qui sont sorties mercredi dernier, j'en parlais, je disais « mais qui serait assez fou pour sortir face à Dune, et ben des gens qui ont fini par se planter. Madame de Sévigné a fait 90 000 entrées sur 271 copies. Tombée du camion, la comédie avec Patrick Timsit a fait 64 000 entrées sur 317 copies. Ça, c'est quand même très très compliqué. Black Tea a fait 29 000 entrées sur 121 copies. Je pense que le truc le plus désastreux, c'est le film Eureka, voilà, dont je vous parlais avec Viggo Mortensen, qui lui a fait 4000 entrées sur 40 copies. Ça, vraiment, c'est désastreux. C'est vraiment désastreux comme score. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pourrait se dire, putain, ok, d'accord, tout le monde va voir que Dune et Dune focus tout le marché. Mais c'est pas vrai. Les gens vont pas voir que Dune. On a quand même une super bonne dynamique actuellement où les gens continuent d'aller en salle. C'est juste qu'ils sont pas allés voir les autres nouveautés face à Dune. Parce que à côté, on a le film Une vie avec Anthony Hopkins qui fait plus 262 000 entrées pour un total à 719 000. On a le biopic sur Bob Marley qui fait plus 259 000 entrées pour un total à 1 400 000. On a la comédie Cocorico avec Christian Clavier et Didier Bourdon qui fait plus 214 000 entrées pour un total à 1 500 000. On a la comédie Chien et Chat qui fait plus 213 000 entrées pour un total à 840 000. On a la comédie Maison de retraite 2 qui fait plus 213 000 entrées aussi pour un total à 1 100 000. Ce qui veut dire que juste en additionnant les 6 premières places du classement à la fin de ce premier week-end, et ben juste ces 6 premiers films-là cumulent à eux seuls 2 200 000 d'entrées. C'est énorme. Et j'ai pas compté, du coup, la totalité des entrées. J'ai compté vraiment que les 6 premiers films. Les gens continuent d'aller énormément en salle, que ce soit pour voir des comédies populaires, des gros divertissements américains, mais aussi d'autres films plus petits. Et d'ailleurs, en parlant des films plus petits, il faut quand même parler des détails du classement. Pour les gros films américains, bah, tous ne séduisent pas, hein. Madame Web, il est en fin de course et il va terminer autour des 400 000 entrées. Là, il en est à 390 000. C'est très compliqué pour Madame Web. Il y a Dakota Johnson, d'ailleurs, qui a fait une déclaration en disant qu'elle jouera plus jamais dans un film de super-héros. Il y a Sydney Sweeney au Saturday Night Live qui a fait des blagues pour se moquer du film. Ouais, bon, c'est très compliqué. Zone of Interest, la zone d'intérêt, on est à 673 000 entrées en cinquième semaine. C'est très très beau, je suis très content pour ce film qui réussit à ramener un aussi gros public avec une proposition pourtant aussi radicale. Et Dali, de son côté, le dernier film de Quentin Dupieux, on est à sa quatrième semaine et il en est à un total de 436 000 entrées. Dans mon oreillette, on me dit qu'il serait déjà normalement à 445 000. Il va dépasser Yannick. Yannick, alors, qui avait fait 445 000 pendant sa première diffusion et qui, avec la ressortie Télérama, était monté à 465, mais c'est bon, c'est déjà officiel, Dali va être le plus gros succès de Quentin Dupieux en salle de tous les temps. Ce qui me bute complètement, tellement le film est vachement plus radical, mais voilà, Dali a réussi à séduire aussi et j'en suis ravi. Du côté des États-Unis, on va aller très très vite parce qu'encore une fois, il y a l'évidence, il y a Dune 2, voilà, Dune 2 qui, sur le territoire américain, fait 82 millions de dollars au box-office pour un cumul dans le monde de 182 millions de dollars. Le film a déjà quasiment dépassé son budget. Le premier dans le monde avait accumulé 433 millions de dollars, ça va probablement le dépasser. Je pense qu'on peut le dire sans trop trembler des genoux, ce qui est complètement ouf. Bravo Denis Villeneuve, bravo le cinéma, bravo les vers géants qui servent d'autobus. Voilà, je suis ravi que ce film me fasse beaucoup d'entrées. Je me tâte très fort à retourner le voir en salle, moi aussi à mon tour. Oui, participons tous ensemble à augmenter sa taille au box-office. Mais il y a deux films qui arrivent en salle, est-ce que ces films arriveront à rivaliser avec Dune 2? Eh ben, on en parlera dans le point box-office de la semaine prochaine.
Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, où je vous dis « Eh, vous avez une question sur l'actualité ?» Et si vous en avez une, eh ben, vous pouvez la poser. Après, j'en sélectionne, et puis elle passe dans l'émission. Le plus simple, c'est de me suivre sur Instagram. Et aujourd'hui, la question nous vient de Valalore officiel qui demande « C'est vrai que Disney a finalement décidé de reprendre Johnny Depp dans la franchise Pirates des Caraïbes ?» On n'en sait rien et faut se calmer. Ça fait un moment que Disney veut relancer la licence Pirates des Caraïbes au cinéma. Ce qui est à mon sens une très mauvaise idée. Je suis fan de la saga Pirates des Caraïbes. Je trouve que les trois premiers sont extraordinaires. Oui, même le 3. Revoyez le 3, il est dingue, surtout en comparaison avec le Disney actuel. Puis après est sorti le 4, qui était déjà extrêmement moyen. Puis le 5, qui était une bouillie visuelle dégueulasse. Le seul truc à sauver dans le 5, c'était Javier Bardem. Et encore, pas totalement. Faudrait rendre les manettes à Gore Verbinski, c'est tout. Faudrait que lui refasse un film. Là, ce serait merveilleux. Là, ce serait un bon programme. Oui, mais c'est pas le programme du tout. Parce que le premier projet, c'était de refaire un Pirate des Caraïbes, mais cette fois-ci, version féminine. Voilà, un concept qui consiste à prendre une licence connue, à sous-écrire un long métrage, mais mettre des meufs à l'intérieur pour dire « Mais allez le voir quand même, c'est bien !» On se rappelle du Ghostbusters féminin, on se rappelle du Ocean's Eleven féminin. Le problème, parce qu'on va commencer à parler de woke dans les commentaires et ça va me saouler, le problème c'est pas qu'il y ait des meufs dans ces films, c'est pas le problème. Le problème c'est que c'est vraiment des films de merde. Je suis sûr que tu peux faire un Ocean's Eleven entièrement féminin, incroyable, mais il faut que ce soit un bon film. Et là le problème c'est qu'ils se servent des meufs comme une excuse. Non, faut pas faire ça. Le projet Pirate Féminin est tombé à l'eau, ça devait être avec Margot Robbie, mais voilà, vous oubliez complètement, le nouveau projet en question consisterait à récupérer des personnages déjà connus de la licence et de les remettre dedans. Des gens qui étaient joués par Kaya Scodelario, voilà, tout à fait, mais aussi, par exemple, Orlando Bloom. On a appris que le tout a été écrit en partie par Craig Mazin, qui est notamment le scénariste de Tchernobyl ou de Last of Us, et voilà que ce murmure au loin que, mon Dieu, peut-être que Johnny Depp va revenir. C'est difficile de faire une licence pareille sans garder le comédien qui l'a incarné pendant 5 films. Malgré toutes les affaires qu'il y a eu sur le comédien en question et notamment ce qu'on sait sur son comportement absolument exécrable sur les tournages. J'avais entendu des histoires où il se pointait pas sur le tournage du dernier film de Mai Wen. Il y avait un truc qui était sorti aussi sur un film avec Forest Whitaker, mais j'ai plus le nom du film. Globalement, il est arrivé bourré, il a frappé un Tecos. Voilà. Non mais c'est ça aussi Johnny Depp, hein. Oui, mais il a vécu des trucs pas faciles, il va pas bien. Eh, franchement, même si on sort l'histoire Amber Heard du truc, et franchement c'est quand même compliqué de la sortir, même si on sort ça de l'équation, il a l'air de se comporter quand même régulièrement comme un gros con. Mais voilà que le journaliste Daniel RPK a balancé sur Twitter que Disney envisagerait de faire revenir le capitaine Jack Sparrow dans la licence pas en leader du film, mais en personnage secondaire qui serait présent dans le coin. Ça permettrait d'assurer la passation de la licence à d'autres personnes, et du coup, on en pense quoi? Eh ben, on en pense qu'il faut arrêter de croire les rumeurs sur Twitter. Parce que si à chaque fois que quelqu'un dit « bah moi j'ai entendu blablabla sur Twitter » et que tout le monde commence à faire des articles dessus, eh ben on n'a pas fini d'écrire de la merde. Surtout que si vous avez l'habitude de suivre des news sur internet, Daniel RPK qui a balancé ce truc sur Jack Sparrow, c'est un type qui a régulièrement tendance à se planter et à raconter de la merde. Je dis beaucoup raconter de la merde, mais c'est vraiment ce qu'il fait. Il est bon pour prévoir quand est-ce que telle ou telle bande-annonce va sortir. Voilà, ça il est bon. Mais pour les annonces particulières autour des films, non, majoritairement, il se plante beaucoup. Le problème, c'est que la plateforme Twitter, depuis qu'elle a été prise par Elon Musk, eh ben, elle encourage ce genre de tweets qui vont faire énormément de RT, même si l'information est fausse, c'est pas grave. Parce que plus tu feras de RT, ben, plus tu gagneras de l'argent à la fin. Je veux dire, le Daniel RPK en question, il a même un Patreon où il balance des infos exclusives pour les gens qui lui donnent de l'argent dessus, des infos qui se sont révélées très souvent fausses. T'as un mec qui a essayé de le dénoncer en disant, bah, il nous fait payer pour de la merde. Le mec s'est pris une action en justice dans la gueule. Donc, vouloir croire à tout prix ce que balance Daniel RPK sur les réseaux, vérifiez vos sources. C'est quand même le plus important dans l'information à notre époque, c'est vérifier vos sources. Et la source Johnny Depp, eh ben elle est pourrie. On est sûr de rien. Et surtout, l'annonce a dit « Disney envisagerait de quoi que ce soit ». Disney, ils peuvent envisager tout ce qu'ils veulent. Hein. Mais derrière, il va falloir aligner les billets, parce que vu le beef qu'il y a entre eux et Johnny Depp, c'est pas certain que ça se fasse. Même s'ils envisagent des choses. Ah, ils peuvent envisager d'avoir des licornes, des véritables licornes dans le film, qui seront toutes conduites par le cadavre rutilant de Patrick Stewart, qui est pas encore mort. Faudra le tuer. Non, mais voilà, tout ce que je veux dire, c'est que on est sûr de rien, c'est n'importe quoi. Et là aussi, j'ai eu beaucoup de questions qui me disaient « Et Johnny Depp ?» Non, Johnny Depp, rien du tout. Je reste persuadé que la seule bonne idée, ce serait de laisser cette licence tranquille. Voilà, de se dire la première trilogie est géniale. Tiens, est-ce qu'on refilerait pas du boulot à Gore Verbinski? Mais c'est tout, on s'arrête là. Allez remater la trilogie Pirates des Caraïbes. Non, vraiment, vraiment, c'est super.
Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Je parle beaucoup trop vite, c'est terrible. Et dans la prochaine émission vendredi, c'est vous qui prenez la parole. Et pour ça, il vous suffit d'envoyer un audio à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com. Vous envoyez un audio d'environ 3 minutes pour parler d'un film que vous avez apprécié ou non. Vous parlez de ce que vous voulez, récent ou non. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Et moi, j'écouterai les audios et vous passerez dans l'émission. C'est dingue, quand je fais cette partie-là, je connais tellement mon texte par cœur. La prochaine, c'est la santé. Donc vraiment, je l'ai répété beaucoup de fois ce texte-là, je suis en roue libre. Mais vraiment, je suis en pilote automatique. Mon cerveau fonctionne même plus à ce moment-là, juste les mots sortent de ma bouche et puis blablabla, c'est incroyable. Bref, allez, on avance, mon Dieu. On va parler aujourd'hui d'une sortie Netflix, d'un film qui a fait beaucoup de bruit le week-end dernier. Il s'agit de Spaceman.
I did not intend to frighten you, skinny human. Do not be afraid. I'm losing my mind.
Spaceman, donc, c'est un film sorti sur Netflix vendredi dernier qui est réalisé par Johan Renck. Johan Renck qui a surtout bossé dans la série télé et on lui doit notamment la réalisation de l'entièreté des épisodes de la série Tchernobyl. Je n'ai pas vu la série Tchernobyl. Je mate pas assez de séries, mais il paraît que c'est super. Et c'est un film qu'on attend depuis très longtemps, Spaceman, parce que le projet avait été annoncé par Netflix en 2020 et le tournage s'est déroulé en 2021. Donc ça fait quand même 3 ans qu'il est dans les tiroirs. Et j'imagine d'ailleurs que quand ils ont annoncé le film fin 2020, ça avait un sens avec toute la période Covid qu'on était en train de vivre. Cette idée de va y avoir un mec en pleine solitude dans l'espace et tout, ça avait un sens avec le confinement, avec tout ça. Est-ce que ça a autant de sens avec les années? Je me pose des questions. On y suit l'astronaute tchèque Jakob, qui est joué par Adam Sandler, qui est actuellement en mission solo dans l'espace pour aller analyser un nuage près de la lune de Jupiter, et le bonhomme va pas bien. Il va pas bien parce que sa femme, qui est jouée par Carey Mulligan, lui répond pas, et il va pas bien aussi parce qu'une araignée géante vient de débarquer dans sa station, une araignée géante qui a la voix de Paul Dano, et qui commence à lui poser des questions sur son passé. Et tout ça donc va l'entraîner à réfléchir sur sa vie, sur son passé, sur sa jeunesse avec le parti communiste, sur son comportement vis-à-vis de sa femme et sur sa mission, tout ça teinté de dépression et de mélancolie. Déjà, le principe du film, il me plaît beaucoup. Et je vais évacuer le débat de, attends, des Américains qui jouent des Tchèques. Oui, tout à fait. Mais d'un autre côté, c'est le réalisateur de Tchernobyl. L'intégralité du casting, c'est des Britanniques qui jouent des Russes. Je suis pas étonné. Mais surtout, en fait, ce choix permet de travailler tout un design autour de l'espace et même de la station, des costumes, assez rétro-futuriste. Je trouve que un des plus gros points forts du film, c'est sa direction artistique. Parce qu'il y a le design de la station, mais il y a aussi, par exemple, le design de l'araignée, qui avec son côté créature pourrait être repoussant, mais qui a un côté assez expressif dans son visage, que je trouve vraiment étonnant. Et puis ça travaille les écrans aussi de cette manière-là. En fait, ça travaille énormément d'éléments pour leur donner un petit côté austère, rétro, et qui renforce la solitude du héros. Et on va passer de cette station à des flashbacks qui vont jouer sur une image en grand angle avec les côtés déformés pour représenter les cortex du cerveau. Voilà, et pour représenter des flashbacks qui vont permettre au personnage de réfléchir sur sa vie et de revoir même sa femme. Ça permet de voir Carey Mulligan, ça rend toujours heureux. En fait, Spaceman, c'est plein de bonnes idées qui vont sûrement séduire plein de gens. Mais ça m'attrape pas du tout. Déjà parce que c'est un film sur la solitude, mais qui va posséder tout le long le même flow dépressif lancinant. Il y a un vrai problème de variation de rythme à l'intérieur de Spaceman. C'est toujours le même tempo, ce qui fait que il y a aucune scène qui va dénoter, qui va réussir à donner particulièrement de l'ampleur. Et en plus, ce tempo-là est continuellement haché par des scènes qui se déroulent sur Terre. C'est-à-dire que c'est un film dont le principe, c'est de te faire ressentir la solitude d'un gars, mais au lieu de t'enfermer avec ce gars, eh ben, on coupe cette action pour revenir sur Terre, pour suivre sa femme, pour suivre les scientifiques qui bossent sur le projet. C'est comme si les gens derrière Spaceman avaient pas confiance dans la pureté de leur concept. Il est fort votre concept, il est fou, faites un huis clos dans l'espace, allez-y, assumez-le jusqu'au bout, rendez le truc irrespirable. Parce que là, en l'état, bah, ça peut pas marcher. Surtout que le retour à la Terre qu'on nous propose dans ces scènes qui coupent, bah, on pourrait juste l'avoir par les flashbacks. Ça suffirait parfaitement, ça fonctionnerait quand même. On serait dans la tête du personnage, faites-nous ressentir de ce que c'est que d'être à sa place. À mes yeux, il y a un vrai problème de point de vue dans Spaceman. Et ce qui fait que du coup, chacun des choix ne permet pas de développer pleinement ce qui reste. Les passages sur Terre sont pas assez développés pour être captivants, et les passages dans la tête du perso esquissent des sujets mais vont jamais jusqu'au bout, notamment toutes les questions de son père, du parti communiste et tout. C'est droppé au milieu de tout ça, mais ce sera jamais particulièrement développé. Spaceman, c'est un film qui fait tout bien, mais qui fait tout bien en effleurant ces sujets, voilà, qui va jamais réussir à pleinement rentrer dedans. Et même moi qui ai la larme facile, il y a 2-3 scènes où tu sens qu'ils sortent les chiens en disant « vas-y, c'est maintenant qu'il faut pleurer », rien du tout, jamais ému par le film. Alors que pourtant, ouais, ça ressemble à un Eternal Sunshine dans l'espace, là, mais ça pourrait me prendre complètement, mais ça, non, ça me prend pas. Je pense que c'est dû aussi au fait que je trouve la musique de Max Richter, qui est pourtant un compositeur que j'adore, c'est lui qui avait fait la musique de The Leftovers, qui est la plus grande série de tous les temps, et là, je trouve la musique, assez banal. C'est vraiment un demi-film pas particulièrement inspiré. Il a les encouragements du jury. Vous voyez ce genre de film-là? On attend un résultat concret, mais malheureusement, il vient pas. Donc on peut pas trasher le film, parce qu'on le regarde en disant « bah, ouais, c'est là, mais ça, non, ça me va pas jusqu'au bout. » Alors que c'est con, ça a l'apparence d'un drame réussi avec Adam Sandler, un genre que j'aime beaucoup, c'est-à-dire Punch Drunk Love, Uncut Gems, etc. Oui, c'est un comédien génial, il a déroulé du câble, il sait faire. Je suis un peu triste parce que j'en attendais peut-être trop, mais je regarde le film en me disant « morf, morf, morf ». Et l'araignée, son prénom, c'est Anus. Voilà, j'étais obligé de terminer là-dessus, je suis désolé. I'm not allowing that. You go where I go, and I go where you go. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien là où vous êtes et que cette semaine se passe à merveille pour vous et vos proches. L'actu du cinéma est encore omnubilée par le fait que Dune 2 existe. Mais tant mieux, c'est très bien, le film va super bien marcher et tout. J'ai hâte qu'on ait de nouvelles news, j'ai hâte qu'on puisse parler d'autres choses, j'ai hâte de vous montrer 2-3 trucs dans la prochaine émission qui sera donc la 100e. Du coup, on se retrouve vendredi. En attendant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore...
Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là.
Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.